Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le coq va chanter, celui de Pathé, des Pathé. En France, nous n'avons pas eu les Marx Brothers, nous n'avons pas eu les Warner Brothers, mais nous avons eu les frères Pathé, Charles et Émile. On tousse et l'on imite le coq dans cette famille. Un jour, l'un des frères va découvrir une invention. Mais ce n'est pas lui l'inventeur. Puis il va découvrir une autre invention, dont il n'est toujours pas l'inventeur. Et l'aventure, industrielle et artistique, Pathé frère, va pouvoir commencer. Une soirée de Paris, première diffusion sur la chaîne nationale, le 29 juin 1958.
Une soirée de Paris. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter l'histoire de Pathé frère, évoquée par Léonce Payard, avec le concours de Aimé Clarion, sociétaire de la Comédie française, dans le rôle de Charles Pathé, Lucien Natt, Émile Pathé, Bernard Lajarige, Théophile Pathé, Jacques Galland, Jacques Pathé, avec Raymond, Marie Pathé et Jeanne Marquen, Madame Pathé, mère, avec Gaby Basset, Simone France et Luce Fabiol, Marcel Lupovici, Fred Fischer, Daniel Mandaille, Robert Maxime Aubry, Roland Chalos et Robert Arnoux dans le rôle de Grivola. Léonce Payard vous parle.
Le chant du coq. Il a salué l'aurore du cinématographe, comme on disait autrefois, du phonographe aussi. Ceux qui ont vécu en 1910, en 1914, se souviennent de ce coq qui tressautait sur les écrans et qui marquait les pavillons des phonographes. Les jeunes, aujourd'hui, ont dans l'oreille son cri vainqueur. Il est lié, ce coq, à un nom, Pathé, devenu célèbre dans le monde entier. Les frères Pathé ne sont plus. Le dernier s'est éteint en décembre 1957. À 95 ans, à Monaco, c'était Charles. Vie prestigieuse, d'audace et de ténacité, de travail. Vie aventureuse, puisqu'elle débuta par la prédiction d'une cartomancienne. Exemple aussi, et fierté pour nous Français, de voir ce nom répandu dans le monde. L'émission que vous allez entendre est un hommage que nous allons rendre aux frères Pathé. Elle est l'adaptation des cris que me laissa et m'offrit Charles Pathé. J'y associe tous ceux qui, comme moi, furent ses collaborateurs avant de devenir ses amis.
Ça me fait tout drôle de te voir en Pékin, mon vieux Charles. Après 4 ans de service, hein. On va arroser ça. Qu'est-ce que tu bois?
Un champoreau.
Eh ben moi aussi.
Bah parlons-en de mon séjour à l'armée. Infirmier à la 9e section à Tours. Puis l'hôpital Saint-Martin à Paris. Compter des draps, des serviettes, aligner des chiffres sur des registres qui ne correspondent jamais à la réalité. Mon sous-off voulait me faire détruire 200 couvertures pour que ça colle. J'ai refusé net. Allez, jouons. Je donne.
Que comptes-tu faire maintenant? Aider notre père à la charcuterie? Tu pourrais faire les livraisons au four de Vincennes.
Allez, jouons, jouons. À tout. À tout. Manille.
Oh, ce que tu peux être joueur.
Oh, ce que tu peux être travailleur. À tout. À tout. J'ai gagné. Tu n'existes pas, vieux frère. Tiens. Précisément, voici Jacques, notre aîné. Et puis Théophile, qui viennent voir comment me vont les habits de civil. Il ne manque plus que Joséphine. Pour que les frères et sœurs Pathé soient au complet. Bonjour Jacques.
Bonjour Charles, bonjour Émile.
Bonjour Théo. Regardez comme j'ai grandi. Faudra que je me fasse faire un costume. Je serai le dandy de Vincennes.
Pas demain en tout cas qu'on t'habillera de neuf. Les affaires de nos parents ne vont pas.
Notre père parle de retourner dans son Alsace, à Kirch.
L'ancien sans-garde n'a rien d'un homme d'affaires. La plus belle qu'il ait réalisée dans sa vie fut celle de se caser autrefois comme remplaçant dans l'armée pour 2500 francs. Aujourd'hui, il veut fermer boutique. Heureusement, maman est là, toujours courageuse, qui économise sou par sou et se prive trop, beaucoup trop. Mais elle est pleine d'espoir pour notre avenir.
Notre avenir? Je suis boucher de campagne à Saint-Sauveur, ruiné avant d'avoir commencé, ou presque. Tu crois en notre avenir, toi, Charles?
Mais oui! Celui qui abandonne dans la vie a perdu d'avance. Notre mère espère, croit que nous réussirons. Ou plutôt que l'un de nous réussira. Et je vais vous dire pourquoi. Et asseyez-vous. Asseyez-vous autour de moi. C'était en 1871. On m'avait mis avec toi, Jacques. Tu t'en souviens?
Oui, oui.
J'ai les sœurs de la rue Blomet à Paris. Nos parents venaient de quitter Chevry-Cossigny pour s'installer à Vincennes. Un jour, je fus pris d'une grosse fièvre. Une angine. J'ai toujours mal à la gorge depuis. La directrice m'a aussitôt renvoyé à la maison pour me soigner. Et un samedi matin, vers 8 heures, notre père était parti depuis longtemps à la Villette pour faire ses achats, quand soudain la porte de la boutique s'ouvrit. J'étais couché et d'abord je ne prêtais pas attention à ce qu'il se disait, croyant que c'était une cliente. Mais maman parlait avec un ton courroucé.
Si c'est pour acheter, entrez. Si c'est pour me dire la bonne aventure, passez votre chemin.
Ah, c'est pour acheter d'abord. Deux saucisses. Celle-ci. Combien?
6 sous.
Oh, j'en ai que 3. Ah. Mais donnez-moi la main, la gauche, celle du cœur.
Non, rendez-moi la saucisse, si vous croyez que...
Je vous dirai l'avenir de vos enfants.
De mes enfants?
Votre main indique que vous avez 5 enfants.
Vous êtes renseignée.
Non, asseyez-vous là. Avec mes tarots, je vois plus clair.
Parlez moins fort. Si quelqu'un entrait...
Coupez. Bien. Oh, l'as de trèfle. De l'argent d'abord. Ah. Vous sortirez vite de vos ennuis. Contrairement à ce que vous craignez, vous trouverez le moyen de continuer votre commerce. Ah, la dame de pique. Oh. Vous allez perdre quelqu'un de votre famille.
Oh.
Par la suite, vous resterez veuve. Mais avec 4 enfants. Car l'un de ceux qui vous reste mourra. Sur les 4, il s'en trouvera un qui réalisera une telle invention que votre nom sera connu du monde entier. Il sera décoré de la Légion d'honneur et assurera un jour la fortune et l'avenir des autres.
Bravo!
L'homme célèbre, ce sera moi! Non, ce sera moi!
Décoré de la Légion d'honneur!
Ça ne sera sûrement pas moi. D'abord parce que j'ai l'esprit trop aventureux. Ensuite parce que l'un de nous mourra. Et celui-là, je le connais bien. J'ai toujours des maux de gorge, je souffre de la poitrine. Ah, je fais pas de vieux os.
Penses-tu? Mais tu es toujours à crachoter dans ton mouchoir. Si tu venais avec moi à Saint-Sauveur, passer quelques mois, l'air y est bon. Puis tu m'aideras, boucher, charcutier.
Et je t'apprendrai à jouer à la manille.
Jouer aux cartes. Tu ne penses qu'à jouer. Jouer. Enfin, tiens, allez, tu viens tout de même à Saint-Sauveur.
Le chant du coq. Toujours vaillant, celui-là.
Oui, à courir après les poules. Et c'est la bête que tu admires. Oh, Charles, tu me déçois.
Ce fut l'emblème de notre pays. Il représente l'audace, le courage, la fierté, la témérité, l'amour aussi. Rien de plus français.
Parlons plutôt des résultats de ton travail. J'ai raclé les fonds de tiroir pour t'acheter un cheval et une voiture, et chaque jour, tu emportes un peu plus de viande dans tes tournées dans la campagne. Pour concurrencer sur place, me disais-tu, le père Louis qui vient de Verberie jusqu'ici pour vendre sur la place de Saint-Sauveur et me ruiner.
Je t'ai déjà remboursé le prix de la voiture et du cheval. Plus 1000 francs, me semble-t-il. Et on voit moins souvent le père Louis ici.
Oui, c'est vrai.
Et ce n'est pas tout. Le père Louis, le plus gros boucher de la Seine-et-Marne, doit venir ici d'un moment à l'autre. Tu me laisseras lui parler. Si le marché que je lui propose te convient, tu feras doucement le coq. Doucement, pour moi seul. Cocorico. En attendant, passe-moi les cartes. Il me trouvera en train de faire une réussite.
Bonjour, père Louis. Comment allez-vous?
Parfaitement, monsieur Batté, parfaitement. Votre frère Charles est là?
Oui, il fait une réussite. Charles!
Ah oui, je vous demande pardon, je termine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Parfait. Ah ben, je vous écoute, père Louis. Vous venez pour notre affaire?
Vous allez vendre sur mes terres, monsieur Charles. Entre Compiègne, Verberie et Bétigy, tous les hameaux sont à moi. Ah, pour la vente, s'entend.
Montrez-moi les papiers vous donnant cette exclusivité. Vous vendez bien parfois ici même, en face de notre boutique. Je vous l'ai dit l'autre jour, nous ne céderons pas. Nous achèterons une boutique en face de la vôtre à Béthisy même.
Allons, 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 ne vous fâchez pas, monsieur Charles. Je ne suis pas venu ici pour vous déclarer la guerre, mais pour vous faire une proposition honnête. Je vous achète votre cheval, votre voiture, votre fonds de commerce.
Rien de tout cela n'est à vendre.
Bon, que diriez-vous de 30 000 francs?
Oh, pas question.
À 35. Non? À 36. Ah, oh, vous êtes exigeant.
Je n'ai rien dit.
Eh bien, j'irai bien jusqu'à 40, mais pas un sou de plus.
Vous imitez le coq maintenant?
Ça sera 60 000. Pas un sou de moins.
60 000? Ah, comme vous y allez. Ah non, 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 je ne puis pas. C'est de la pure folie. 50. Vous ne dites rien? Eh ben, je suis bon bougre. J'accepte 55 000. Mais une condition fort belle, c'est qu'en signant l'acte de vente du fonds de commerce, vous acceptiez tous deux l'engagement par écrit de ne pas vous installer bouger dans un rayon de 20 km à la ronde.
Ah ben, j'ai dit alors. 60 000 et vos conditions. Oui? Alors topez-la, Père Louis. Et ouvrons une bouteille de champagne en votre honneur.
Du champagne, non, du vin blanc. Tu as toujours de grand goût.
Mais oui, j'ai de grand goût. Celui des beaux vêtements, celui des jolies femmes, celui des voyages aussi. Des grands voyages.
Messieurs les voyageurs, pour moi, large, en voiture. En voiture, s'il vous plaît.
Alors, embrasse-moi, Théophile.
Ah, tu es extraordinaire, Charles. Comment oses-tu, sur une simple annonce dans une gazette, te lancer dans une aventure pareille? Partir comme émigrant en Argentine, seul, sans argent ou presque.
J'ai lu quelque part que la fortune souriait aux audacieux. Quant à l'argent, tu oublies que Jacques m'a donné 10 000 francs à la suite de la vente de sa boucherie de Saint-Sauveur. J'ai en poche mon billet de passage, il me reste 200 francs.
Des voyageurs pour moi, l'or, en voiture.
Embrasse bien maman pour moi. J'ai pas voulu qu'elle vienne à la gare. Veillez bien sur elle, tous les quatre. Je reviendrai avec une fortune.
Ah, la carte mancienne.
Dans combien de temps le Paraguay arrive-t-il à Buenos Aires?
Bon, 26 à 30 jours, ça dépend.
Voilà, c'est beaucoup.
Oui, surtout comme émigrant. Au milieu des Arméniens, des Syriens, des Juifs. Tâchez de fréquenter des Basques ou des Bretons. Il y en a toujours à bord.
Hé, soupe, soupe!
C'est bon, seigneur!
Votre capotaine, man!
Tenez un cuchillo?
Pas de couteau, vous vous battiez pour une tranche de pain. Allons, dépêchons!
C'est bon!
Et bousculez pas comme ça!
Tiens, un Français dans cette racaille. Ah non, alors. Et vêtu comme un dandy.
Oui, et de Seine-et-Marne. Quant à mes vêtements, j'ai pensé que mieux valait...
Ah non, ne figure pas que les Argentins vont offrir une place de directeur général en débarquant. Hein. Enfin, viens dormir près de moi, jeune homme. Si on veut te voler, je serai là pour te défendre. Copain?
Copain? J'offre à boire.
À boire? Et où? En classe de luxe? Mes vieux frères, il y a un charnier rempli d'eau, la même, jusqu'à l'arrivée. Et pour ne pas en perdre une goutte, on te fait monter à l'échelle jusqu'à la partie supérieure du réservoir ouvert sous le ciel, pour accueillir l'eau de pluie. Avec une pipette ayant servi 1000 fois, tu pompes quelques goulets d'eau saumâtre. Voilà le bar pour les émigrants du Paraguay. Ah, on se rattrapera à Buenos Aires dans un mois. Je m'appelle Belloc. Et toi?
Pâté. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
J'ai emporté un livre espagnol. Ça me servira à l'arrivée pour chercher une situation.
Entra, joven. ¿Tiene usted una especialidad?
No.
¿Carpintero?
No.
¿Vaquero? Sí, guardián de vacas.
No.
¿Nada? ¿Rien? No. Bien. Tu seras pavé dans la ville. Tu verras. Les jolis petits pavés de bois.
Monsieur Carroll.
Qui travaille au télé.
Eh voilà, 28 jours de navigation dans des conditions effroyables pour paver de bois les rues de Buenos Aires. Tes mains d'aristocrate ne sont pas faites pour cela, Pâté. Regarde, elles saignent. Pas assez mal à barre pour ce foutu travail.
Le temps de gagner quelques pesos. Je vais chercher quelque chose de plus intelligent. Un trabajo. Un oficio. Et toi, Belloc?
Oh, moi aussi, bien sûr. Il faut que je trouve autre chose. Dis-moi, Pâté, tu contentes ta nouvelle situation?
Non, mon vieux Belloc, toujours pas satisfait. Auxiliaire des douanes. Ce n'est pas en compulsant des barèmes et des tarifs que je ferai fortune. Et toi, quand auras-tu fini de paver Buenos Aires? Tu sais que la ville s'étend tous les jours. Dans un an, en 1890, elle aura...
Dis-moi, Pâté, tu es content de ta nouvelle situation?
Employé de bureau dans une maison d'exportation? Oh non, à peine quelques pesos de plus que lorsque je posais des pavés de bois. Mais c'est moins dur. Je trouverai autre chose. Alors, sortons de ce bastringue, allons prendre l'air.
Alors, tu viens, Charles?
Attends-moi, Belloc. Je termine un compte et je suis à toi.
Dépêche-toi, de belles filles nous attendent au ciel de Oro.
Alors j'ai fini. Dis-moi, mais aujourd'hui il ne s'agit pas de filles. Dans un mois, tu ne paveras plus Buenos Aires, Belloc. Et moi, je ne serai plus qu'ici au Lavaderos. Nous allons quitter Buenos Aires pour Rio. Il fait horriblement chaud. Et certains hommes changent de linge 2 fois par jour. Et ils sont tous habillés de blanc. Alors j'ai relevé le plan de la machine à laver du Lavaderos. C'est d'ailleurs simple à construire. Un tambour de bois qui tourne sur un axe. Le tout dans une cuve remplie d'eau. On fourre le linge dans ce tambour avec du savon fondu et un noir fait tourner la machine. J'ai même imaginé une amélioration pour le nègre. Une roue dentée avec des multiplications. Ce sera moins pénible. Dans un mois, avec notre machine à laver, à Rio de Janeiro, nous aurons de quoi construire 2, 3, 4, puis 20, puis 100.
Et tu laveras le linge de tout le Brésil. Quelle imagination. Tu es un être extraordinaire, mon vieux Charles.
Allez, en route pour Rio de Janeiro, cher associé.
Alors, t'es content, Pâté? L'argent rentre?
Oui, oui. Mais pas comme je l'avais imaginé. Je me suis trompé, Belloc, dans mes prévisions. Je n'avais oublié qu'une chose. Une toute petite chose. C'est que la main-d'œuvre noire, ici, ne coûte rien. Alors les gens font laver et repasser leur linge à la maison. Nous avons eu un succès de curiosité au début, mais notre chiffre d'affaires n'augmente pas. Et une affaire qui n'augmente pas, périclite pour moi. Et puis, je ne me sens pas bien. Pas bien du tout. Depuis 2 jours, je n'ai rien mangé et je dors à peine.
Ah oui, je vois ce que c'est. Tu as envie de rentrer en France, de revoir ta mère, ta maman, dont tu parles si souvent, ton père, le géant, l'ancien sans-garde, et tes frères et ta sœur.
J'ai peur d'avoir contracté la fièvre jaune. Et il est dit que je mourrai très jeune. Les prédictions de la bohémienne. Mais en attendant, je veux vivre. Vivre et revoir la France.
Ah, je resterai ici pour faire marcher le Lavaler au sol. Retourne en France, Charles, t'es fatigué.
Maman, ma chère petite maman.
Oh, comme tu as maigri. Tu flottes dans tes vêtements.
Tes bagages.
Tiens, voilà mon billet, Emile. Ah, bon. Occupe-toi de mes bagages.
Oui.
Ah, attention à Coco. Ah, le commandant ne voulait pas le laisser embarquer, Coco.
Qui est Coco?
Je te raconterai ça dans le fiacre, Théophile. Ah, ben voilà, Emile et Coco.
Oh, un perroquet.
Oh, oui, un perroquet. Bon. Figurez-vous que j'en avais acheté 30. Oui, 30, parmi les plus beaux. Là-bas, ils ne coûtent rien, ou presque. Ici, je comptais les revendre à un bon prix. Ma cabine, car j'avais une cabine à bord, était transformée en volière.
Mais où sont-ils tous?
Morts en route.
Oh.
Sauf Coco. Allez, en route pour Vincennes. La charcuterie est toujours là, bien sûr. Et alors, que faites-vous, frérot? Des affaires?
J'ai acheté, en faisant des dettes, un café tabac et de Vintimille. Et je vais me marier. Ma femme tiendra la caisse. Moi, ça me plaît qu'à moitié, mais que faire d'autre, hein?
Je retourne dans un mois à Rio, après une petite convalescence en France pour ma fièvre jaune.
Je t'emmène avec moi, Émile. J'ai laissé là-bas un ami, Belloc, oh, un bon ami. Mm-hmm. Ah, j'oubliais ta femme. Ce ne serait pas sa place là-bas.
Dans un mois, déjà, c'est pas possible. C'est si vite passé un mois. Allons, Charles, embrasse ton père.
Ne nous attendrissons pas. Charles, après une semaine de repos, tu nous aideras. Les militaires du fort nous commandent de plus en plus de charcuterie. Tu la livreras. Tu remplaceras Émile, qui nous quitte, pour s'établir.
J'avais pourtant bien l'intention de me reposer et de m'amuser, tout le mois.
Comment oses-tu discuter mes ordres? Je n'admets pas.
Oh, Jacques, tu m'avais promis de... J'ai préparé un bon pain en l'honneur du retour de Charles. Charles, écoute-moi.
Maman.
Repose-toi. Soigne-toi, surtout. Tu craches encore. Et amuse-toi, mais pas trop. Oui, j'arrangerai ça avec ton père. Je te demande une chose, une seule chose. Si, Ario, tu ne réussis pas, tu n'as pas l'air de rouler sur l'or. Eh ben, n'aie pas honte d'interrompre ta carrière d'émigrant. Reviens. Ta santé...
Rassure-toi. Je reviendrai, maman.
Quel triste retour en France pour Charles. Après 3 mois de séjour à Rio, il nous revient. Et j'ai pas encore osé lui dire. Et moi qui ai toujours cru que ce serait lui.
Alors les enfants, tout le monde va bien? Mais Joséphine n'est pas là.
Viens Charles, je t'expliquerai.
Elle n'est pas...
Si, c'est elle. La prédiction de la cartomancienne. Vous perdrez un enfant.
Mon ami Belloc aussi est mort. La fièvre jaune. Et je suis revenu.
Avec des perroquets?
Non, mon vieux Théo, pas avec des perroquets. Avec des pots de moutarde.
Oh, des pots de moutarde. Si tu comptes devenir célèbre à vendre des pots de moutarde apportés d'Argentine et obtenir la croix de la Légion d'honneur, mon Charles...
En attendant, j'ai expulsé un de mes locataires à Vincennes. Oui, j'ai acheté l'immeuble. Cet homme, c'était un marchand de vin, tu le remplaceras. Ce sera plus raisonnable que de courir le monde pour apporter des perroquets morts ou des pots de moutarde avariés. Des pots de moutarde. Je vous demande un peu.
Oui, reste avec nous, Charles. Pour toujours, cette fois, je t'en prie. Tu verras, il y a un jardin avec des tonnelles. Et si en semaine, tu n'as pas grand monde...
Et même personne.
Oh, faut pas dire ça, Émile. Le dimanche, le monde afflue. Des amoureux, des militaires du fort, après une promenade au bois... Il y a un piano mécanique et on danse.
Bonjour Charles.
Bonjour Émile.
Laurentine tient le tabac aujourd'hui, le dimanche il n'y a personne l'après-midi rue de Vatimille. Alors je viens t'aider.
Oui, voilà, voilà. Tu arrives bien. Jamais je n'ai eu autant de monde.
Ah, toi tu regrettes Rio de Janeiro et les belles négresses. Dis donc, tu ne devais pas t'embêter là-bas.
Qu'est-ce qui arrive? Va voir au jardin, Émile.
C'est Madame Foy. Elle était montée sur la balançoire, poussée par sa fille. La corde a cassé, elle est mal tombée.
Alors,
brisée.
Vite, un docteur et un fiacre. Je vais faire transporter Madame Foy chez elle. Tiens, Émile, remplace-moi. J'accompagne chez elle Madame et Mademoiselle Foy. Marie Foy.
Mais attention, elle est charmante, Mademoiselle Foy. Tu...
Vous êtes charmante, Marie, et très belle. J'ai 29 ans aujourd'hui. Ah, si j'étais pas en si mauvaise santé. Vous me comprenez, n'est-ce pas?
Je vous comprends parfaitement, Charles.
Alors?
Alors, je vous aimerai, je vous soignerai.
La créosote, l'huile de foie de morue, le goudron. Je maigris tous les jours un peu plus. Mais j'ai pas d'argent. Et je suis marchand de vin. Une guinguette. Le dimanche.
Pas d'argent, qu'importe. Je commence à travailler. Mon métier de sage-femme est bon. On a beaucoup d'enfants en Vincennes. J'adore les enfants.
Et moi aussi.
Et nous ferons fortune. Vous serez célèbre, Charles. La carte mancienne l'a dit à votre mère,
oh,
je sais.
Ça ne sera pas moi. Mais un de mes frères, l'aîné, Jacques ou Émile, qui s'intéresse aux sciences quand il n'a pas de clients à servir. Ou encore Théophile, qui a des idées, des inventions... Mais pas moi.
Ce sera toi, je le sais, ce sera toi.
Mais comment?
Dans la vie, parfois, le hasard fait bien les choses.
C'est bien pour te faire plaisir, Marie, que je t'ai amené à la foire de Vincennes. Et aussi pour entendre le phonographe d'Edison, dont on parle tant.
Comment dis-tu, phono?
Graphe, phonographe. Cela doit vouloir dire qui écrit le son. Un Américain nommé Edison a fabriqué cette merveilleuse machine. Tiens, tu vois, c'est là.
Mais Yann, que terrible! Nous n'allons pas de nous.
Ah ben, dommage. C'était peut-être intéressant. Enfin, allons boire quelque chose.
Si l'entrée ne coûte pas trop cher, cependant, nous pourrions... C'est extraordinaire.
Entrez, entrez. Deux sous seulement à l'audition de la huitième merveille du monde. Le phonographe d'Edison. Entrez.
Les gens entrent et sortent bien vite. Regarde, il y a une pancarte. L'audition, 10 centimes. Deux sous. Allons-y.
Donnez-moi deux sous, monsieur. Là, voici les écouteurs.
Mes petites dames, vous n'avez pas le droit de partager. Ça se fait au restaurant, mais pas ici. Encore deux sous. Merci, monsieur. Madame, les écouteurs, là, à vos oreilles.
Ah, mais non, mon vieux, pas comme ça. Aux oreilles. Ah,
tout le monde est prêt? Attention. Vous allez entendre la grande diva Millie Meyer. Dans Après la bataille. Attention. Silence. Je mets en route. Et maintenant, nous allons écouter la Marseillaise.
On écoute la Marseillaise.
Oui, tenez, voilà 4 sous. Écoute, toi, moi je regarde. C'est curieux. 1, 2, 3, 4, 5 par appareil. Je compte 20 écouteurs disposés le long d'une rampe reliée à une sorte de pièce de 100 sous par un tube de caoutchouc. J'aimerais voir ça de plus près. Sortons, Marie. Je reviendrai.
C'est un appareil merveilleux. Ce qu'on peut inventer tout de même.
Attends. 10 centimes par 3 minutes environ. 20 écouteurs par appareil. Ça fait dans les 2 francs. En 4 heures de travail, 60 à 80 francs.
Que calcules-tu?
Et que moi, en 12 heures de travail chez mon avoué rue de Rivoli, je gagne 6 francs. Tu entends? 6 francs. Alors que ce monsieur, avec sa machine, en 4 heures, se fait 10 fois plus.
Oui, mais il a un phonographe d'Edison.
Mais j'achèterai un phonographe d'Edison.
Avec quel argent? Ça doit coûter une fortune. Et où?
Non, laisse-moi faire. D'ici un mois, nous aurons nous aussi la queue devant notre tente à la foire. Et tu seras à la caisse, Marie. Moi, je ferai marcher l'appareil d'Edison. Un seul d'abord, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 20. Avec 30 paires d'écouteurs chacun.
Mon pauvre Charles, toujours enthousiaste, emballé des châteaux en Espagne.
J'entends, Marie. J'ai passé 2 jours à mettre au point l'appareil. Alors, Émile, tu ne dis rien?
Oui, ça marche. Mais vois-tu, je ne regrette pas de t'avoir refusé les 700 francs que tu voulais m'emprunter.
Être forain, c'est pas une profession.
Et la vie que tu as menée jusqu'ici ne peut nous donner confiance.
Tu oublies l'affaire du père Louis, Jacques. Enfin, peu importe, la famille, c'est la famille. Aujourd'hui, 9 septembre 1894, moi, Charles Pathé, qui débuta comme livreur de saucisses et de pâtés, devint successivement paveur à Buenos Aires, puis comptable, puis propriétaire de Lavaderos à Rio de Janeiro, enfin gratte-papier chez un avoué, commence aujourd'hui ma carrière d'exploitant d'un appareil Edison, acheté 1800 francs avec les accessoires. Fortune dont je dois la plus grande partie. Entendez, mes frères, la foule qui se presse à l'entrée. Allons, Marie, à la caisse. Prix de chaque audition, 0 francs 10 centimes. Non, 0 francs 20. La foire de Montlhéry doit attirer avec mon appareil les foules depuis Champigny jusqu'à Ozoir-la-Ferrière. Ensuite, nous irons à la conquête de Paris.
Oui, Charles, fais fonctionner ton appareil qui risque de tout sauter comme toi. Moi, Théophile, je vais battre la cloche. Toi, Émile, canalise la clientèle. Marie, à la caisse, bien sûr.
Allô ? Entrez, monsieur dames ! Entrez ! Vous entendrez les meilleurs chanteurs de l'opéra dans le Carmen. Guillaume Tell, la Traviata, et pour finir, la Marseillaise !
Les enfants au-dessous de 10 ans entrent gratuitement !
Il te lève tôt, Charles.
Hier, nous avons fait à Montlhéry plus de 200 francs de recettes. De quoi payer notre loyer et commencer à rembourser. 200 francs. Plus que je ne gagnais en 2 mois à l'étude.
Si ça n'avait pas marché.
Je n'ose y songer. C'était la catastrophe. C'est pour ça qu'avant de retourner tout à l'heure à la foire, je veux bien vérifier mon appareil.
Tes frères ont été chics.
Oui. Émile va dimanche abandonner son tabac et nous accompagner au pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges. La semaine prochaine, nous ferons la foire de Dourdan, puis de Houdan, de Troyon, puis nous irons dans toute la France.
Pourquoi pas toute l'Europe ?
J'ai précisément l'intention d'aller en Angleterre.
En Angleterre ? Cela me fait penser que je n'ai même pas un parapluie.
Achète-en un tout de suite, Marie. Très grand, immense. Quand il pleuvra, tu l'utiliseras. Pour le soleil, il me servira à abriter mes cylindres. J'ai remarqué, le soleil amollit la cire et nuit à l'audition.
Déjà ? Qui vient nous déranger si tôt ?
Vous désirez, monsieur ?
Je suis forain, comme toi. Ou pardon, comme vous. Je vends des berlingots, du nougat de Montélimar, du pain d'épices. Eh oui, j'étais placé à côté de vous, là, à Montlhéry. Vous étiez si occupé que vous ne m'avez même pas vu. La foule s'écrasait devant votre tente. Jamais, de mémoire de forêt, j'avais vu une pareille affluence. Et moi qui vends de la marchandise, de la bonne marchandise, et le client me boude alors que vous, qui ne vendez que du sang, vous gagnez de l'argent, beaucoup d'argent. Alors une idée m'est venue. Vendez-moi votre appareil, ou alors un autre semblable, avec de la musique, hein. La France est grande, je ferai les foires de mon pays. La Gascogne, mon bon.
Eh bien, revenez me voir dans 10 jours, et dites à 2 ou 3 de vos amis, enfin pas plus, que je pourrais peut-être leur céder un de ces merveilleux appareils, les accessoires, les rouleaux de cire. La France est grande, vous le dites vous-même. Et je ne demande pas mieux que de rendre service à de braves gens. Allons, au revoir, monsieur. Dans 10 jours... À mon retour d'Angleterre. Ma chère Marie, mes bien chers frères, écoutez la circulaire que je viens de pondre. Elle sera envoyée aux abonnés du journal des forains. Moyennant le prix d'une annonce, ils m'en ont donné la liste. Mon cher collègue, notre honorable profession n'est pas, comme certains le croient, uniquement celle d'amuseur public. Nous apportons, avec la joie et les plaisirs, des nouveautés, souvent basée sur le progrès scientifique et ses plus éclatantes découvertes.
Éclatante ne va pas si tu penses à ton phonographe.
Hein? Oui, ben, nous dirons intéressantes. Intéressantes inventions scientifiques. Comme les cirques ambulants offrent en spectacle au public avide d'exotisme des éléphants. Non mais tais-toi Théophile, tais-toi, je ne sais plus ce que je dis. Des éléphants, des panthères et des lions du désert, aujourd'hui je vous donne la possibilité de présenter à votre cher public la dernière invention d'Edison, celle qui reproduit fidèlement le son de la voix, la musique. Le succès que j'ai obtenu sur les foires est le plus sûr garant de votre succès. L'appareil complet, avec 3 cylindres, ne coûte que 1500 francs. Grâce à lui, vous pouvez faire des recettes de 100 francs par jour très facilement. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, pour toute démonstration. Charles Pathé, 100, cours de Vincennes, Vincennes.
Et où as-tu acheté les appareils que tu leur offres ?
En Angleterre, à un nommé Cumberg. 3000 francs pour 4 appareils. Qu'en dis-tu, Émile ? Ah,
pas mal comme opération. Fais voir ce phonographe. Ah, il faudra changer ce cercle métallique qui est appuyé sur le diaphragme. Je permets que j'emporte cette pièce chez moi, Rubalu. J'ai installé un petit atelier.
Sacré bricoleur. Emporte, mais ne le casse pas. C'est la partie essentielle de l'appareil.
Non, mais sois tranquille. Alors, cette pièce étant lourdement montée, le poids est l'ennemi. J'ai remarqué que l'aiguille rayait, abîmait vite la cire.
Ah ben tu as raison. Mille fois raison. Je songe aussi à enregistrer moi-même. Ça ne doit pas être sorcier. Du moment que les Américains et les Anglais le font, il n'y a pas de raison pour que moi, sur de la belle cire vierge, je n'enregistre pas.
De la vieille cité romaine, une ville immense et prospère, une ville industrielle, mais où les sciences et les arts ne seront pas absents. Vous venez d'entendre le discours de M. le Président de la République, Yannick Arnaud, prononcé à Lyon lors des fêtes de l'exposition le 23 juin 1894.
Encore une fois ce matin et ce sera fini. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers concitoyens, quand le maire de votre belle ville de Lyon m'a prié de venir présider ce banquet, une grande joie m'envahit tout entier. Jamais, au grand jamais, je n'avais...
Qu'est-ce que tu fabriques ? Marie ne voulait pas que j'entre. Tu prononces un discours ?
Oui, le discours du président Yannick Arnaud à Lyon. Ça fait la 25e fois depuis ce matin 6h que j'enregistre ces paroles. Je les sais par cœur. Quand le maire de votre belle ville...
Et tu fais des enregistrements du discours du président ?
Oui, on croit que c'est lui qui parle.
Bien, j'ai amélioré ton diaphragme. Plus tard, la supercherie ne marchera plus, on connaîtra la voix de chacun.
Tiens, regarde mes deux salles d'enregistrement sur les cylindres. Je les achète vierges à Londres avec les appareils. Je passe par Dieppe, New Haven. C'est plus long mais moins cher que par Boulogne. Pendant la traversée, je me repose. Ici, je travaille plus de 15 heures par jour.
Monsieur Rousselière vient d'arriver pour ses enregistrements.
Bon, fais-le entrer, ce cher ténor.
Rousselière, le ténor de l'opéra ?
Oui. Je l'ai engagé pour 3000 cylindres. Oh. Pendant 4 mois, il va chanter ici des milliers de fois le grand air de Guillaume Tell. Vaguet, Lassalle, Delmas, Renaud, 100 autres artistes de l'opéra ou des cafés-concerts vont être sous contrat pour enregistrer sur mes cylindres la même chanson, et des milliers de fois. J'ai la tête pleine des chansons de Mireille, des stances de Flégier.
Tu es extraordinaire.
Oh, peut-être. Mais j'en peux plus. Je tousse. Je suis à bout de force. Même je crache le sang. Je ne sais comment je tiens debout. Seul avec Marie et un employé. Pourtant, j'ai signé hier le bail pour un magasin de vente d'appareils, de cylindres et d'accessoires à Paris 72, cours de Vincennes. Pour 12 000 francs par an. C'est beaucoup, mais les ventes marchent bien. Les forains achètent des appareils et ensuite ils viennent s'approvisionner en cylindres. J'en manque.
Et tu vas faire fortune ? La prédiction de la bohémienne. Que dit maman de tout cela ?
Elle est à la fois émerveillée et inquiète. Je lui ai fait visiter mon nouvel appartement hier, cours de Vincennes. Il est à côté du magasin. 3 pièces et une cuisine. 800 francs au lieu de 200 pour l'ancien. Oh, je me crève à ce métier. Mais j'y songe, si tu m'aides, Émile. Toi d'abord, mes autres frères ensuite. J'ai des projets, tu sais, de grands projets. Songe que pour la première fois, j'ai reçu une lettre de Russie. Oui, de Saint-Pétersbourg. Regarde, c'est écrit en français. Un inconnu qui veut acheter un appareil, puis des cylindres, et il m'envoie des roubles. Associe-toi avec moi, Émile. Nous doublerons le capital, et nous nous lancerons dans de grandes affaires.
Laisse-moi réfléchir à ta proposition.
Qu'est-ce que c'est ?
Les messageries. Une caisse de Londres pour M. Charles Paté. Ah oui, t'en gros bras, votre caisse. Si on arrivait comme ça tous les jours...
Tenez, mon brave.
Merci, mon prince.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Des phonographes, des rouleaux ?
Non, devine.
Comment veux-tu que je devine ?
La dernière invention du siècle. Un appareil américain acheté à Londres lors de mon dernier passage. Attends, tu vas voir.
Une caisse dans une caisse ? Oh, quelle plaisanterie !
Oui, une caisse en bois léger, 1,50 m de haut sur 70 de large. Mais attends une minute, veux-tu ? Là, tu vois, je branche le fil. La lampe à l'intérieur s'éclaire. Une seconde encore. Tu vois cette bande de photographie, imprimée sur celluloïde ? Elle a 12 mètres de long sur 35 mm de large. Maintenant, regarde par l'oculaire. Dans la caisse, oui, là, par ce trou. Je fais avancer les images. Que vois-tu?
Ah, un homme en mouvement. Oh, c'est extraordinaire, ça. On voit l'image par transparence.
C'est le kinétoscope d'Edison, tout simplement.
Et que comptes-tu faire?
En acheter plusieurs, les perfectionner, puis en fabriquer moi-même, et les vendre. Dès demain, je mets des annonces dans le petit journal, le petit parisien, le journal des forains. Je prends des commandes, je demande des arts. Aux ventes des rouleaux et des photographes qui reproduisent le son, j'ajoute celles des bandes animées et des kinétoscopes. Ah, c'est tout, c'est affreux.
Comme tu es pâle.
Oui, ça ne va pas. C'est dommage. L'autre jour, ayant un peu d'argent, j'ai voulu contracter une assurance sur la vie au Phoenix. Un docteur m'a examiné, refusé. Mauvais signe. Mais ne le dis pas à Marie. Ah ben, c'est la journée des visites. Qui est-ce, Marie?
Un certain monsieur Joly.
Eh ben, s'il est joli, qu'il entre.
Vous êtes bien, monsieur Charles Papé?
Oui, monsieur.
J'ai entendu parler de vous. Vous vendez des phonographes aux forains.
Oui, et avec des rouleaux. Et bientôt un nouvel appareil, le kinétoscope. Mon frère Émile précisément l'admirait et me proposait une association pour l'exploiter. Tenez, regardez vous-même, monsieur Joly. Là, par l'oculaire.
Intéressant. Très intéressant. Cet appareil doit être extrêmement coûteux.
Oui, assez. Les bandes sont d'abord très difficiles à obtenir. Et puis, elles constituent un monopole de monsieur Edison.
Voulez-vous me permettre de regarder de plus près une de ces bandes? Elles sont en celluloïde enduites d'une émulsion sensible.
Vous n'êtes donc pas forain?
Non. Disons que je suis un homme intéressé, un chercheur. Le qualificatif d'inventeur est trop prétentieux. Je m'y connais un peu en photographie, en électricité. Ah, comme j'aimerais vous aider, travailler avec vous, il me semble.
Mais il ne me reste qu'à me retirer. Au revoir, Charles. Au revoir, monsieur Joly.
À bientôt, Émile. Quant à vous, cher monsieur, vous m'êtes très sympathique. Vous dites vous y connaître en photographie et en électricité.
Oui, oui, un peu. Vous m'avez dit que les bandes revenaient très chères, qu'elles étaient le monopole de fait de monsieur Edison. Si vous consentiez à m'aider pécuniairement, je suis certain de résoudre le problème de la fabrication de ces bandes. Il faudrait d'abord construire un appareil de prise de vue cinématographique.
À combien estimez-vous la construction d'un tel appareil?
3 000, 4 000 francs au maximum.
À mon tour de vous dire, c'est beaucoup. Mais vous m'intéressez, monsieur Joly. Voulez-vous me faire le plaisir de déjeuner avec moi? Nous parlerons plus librement.
Charles, qu'est-ce que c'est que cet instrument? On dirait une araignée avec ses pattes.
C'est une machine à écrire pour enfants, mon cher Émile.
Enfant, c'est toi avec tes nouveautés.
Ah, tu ne crois pas si bien dire. Je fais des bêtises en ce moment. Je perds tous les bénéfices réalisés avec la vente des phonographes. Oui, je m'intéresse à trop de choses. Je me disperse. Et cela ne vaut rien. Ainsi tient cette machine à écrire. Elle est de la fabrication d'un certain monsieur Robert. Je lui ai avancé 5 000 francs. Autant les considérer comme perdus. Allez, à la poubelle, la machine à écrire de monsieur Robert.
Et ton associé, monsieur Joly?
Ah, là aussi, je me suis un peu emballé sur ce monsieur Joly. Le 13 août 1895, j'ai signé avec lui un contrat par lequel je m'engageais à lui fournir les fonds nécessaires à l'établissement de dessins et à la fabrication d'un appareil de prise de vue de son invention.
Eh bien?
Oh, il a réussi. Et je puis affirmer que monsieur Joly a eu le mérite, le premier, à obtenir une bande cinématographique française. Mais il me ruine. Les 4 000 francs sont depuis longtemps dépassés. Et il n'en a jamais assez. Ah, parle-moi des inventeurs, tiens. Et puis j'ai commis la bêtise de le loger chez moi avec sa femme. À force de travailler la nuit, monsieur Joly est devenu nerveux, tourmenté, soupçonneux.
Dis donc, sa femme...
Oh non, 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 pas du tout. Son appareil et ses bandes seuls comptent. Son appareil, ses bandes coûtent déjà très cher. Et la plupart sont inutilisables. Je dois même t'avouer que j'en ai vendu plusieurs, malheureusement. Parmi ces dernières, à 500 à 600 francs. Et je risque des ennuis. À te dire vrai, je suis plein de remords. Jamais je n'aurais dû faire ça. C'est malhonnête. Mais ma caisse était vide.
Et il te faudra les rembourser plus tard. Mais où est ton monsieur Joly?
Il est sorti. Il sort tous les après-midi et rentre dans des états de nervosité de plus en plus grands. Il m'inquiète, mon inventeur. 9 heures. Alors, allons nous mettre à table sans lui.
J'entends quelqu'un.
Tiens, c'est lui.
Bonjour, messieurs. Excusez-moi, j'ai couru toute la journée. J'aimerais vous parler, monsieur Charles.
Mais mon frère n'est pas trop parlé.
Eh bien, lisez cet article paru dans La Nature. Là, c'est le 3e sur ce sujet. Les frères Lumière ont eu l'idée de substituer au mouvement continu le mouvement intermittent, ce qui permet d'agrandir l'image cinématographique sur un écran. Ainsi, elle est visible de plusieurs spectateurs à la fois. Il faut que je construise des appareils de ce genre. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas assez de ressources, de moyens financiers. Depuis quelque temps, vous faites la grimace chaque fois que je vous demande de l'argent. Alors j'ai pensé, il vaudrait peut-être mieux...
Que nous nous séparions, n'est-ce pas? Et quel est votre nouvel associé?
Et comment savez-vous?
Oh, je sais beaucoup de choses. Alors, qui?
Avec Monsieur Debay. Mais j'ai passé un contrat avec lui. Nous fabriquons des appareils lumière, des films. Je vous demande ma liberté.
Et... Accordé avec joie. Et?
Mais nous aimerions que vous ne tentiez pas de fabriquer vous-même ces appareils de cinématographie dont parle la nature. Que vous vous contentiez de construire des photosotropes, que nous vous réservons avec les bandes imprimées latéralement. Je pourrais vous apporter mon concours sur ce point. L'appareil que j'ai construit est ma propriété.
Monsieur Joly, je vous ai fait confiance et vous m'avez ruiné, tout simplement. Dépensant largement tout ce que je gagne avec les phonographes, et maintenant vous me quittez voulant me faire prendre un engagement pour l'avenir. Non mais, vous plaisantez. Quant à l'appareil construit avec mes deniers, je le garde. Il m'a coûté assez cher. Adieu, monsieur Joly. Nous n'avons plus rien à nous dire. Et déménagez de chez moi, vous et votre femme, le plus tôt possible.
Eh bien, il est joli dans les sociétés.
Ah, à te dire le vrai, je m'y attendais. J'ai mis sous clé son appareil, ou plutôt mon appareil. Quant aux articles de la nature, je les avais lus, tu penses bien. Et si je t'ai demandé de venir ce soir, c'est pour que tu m'accompagnes sur les grands boulevards, dans une salle du Grand Café où les frères Lumière donnent une projection. Hein? Allons voir.
Oui, allons voir. Et si j'en sors convaincu, et je commence à le croire, j'accepterai ton offre et nous fonderons une société avec Jacques et Théophile. Une société pas tes frères.
Enfin, je pense qu'avec 8000 francs chacun, moi, en contrepartie, j'apporte l'appareil de prise de vue, les bandes, un petit laboratoire.
Ça me semble possible aussi. Pas tes frères. Pourquoi pas, hein? Pas tes frères.
Pas tes frères. Société en nom collectif au capital de 40 000 francs. Phonographe et cinématographe.
Ah ben, ils manquent pas d'audace, ces gens-là.
Venir s'installer au 98 de la rue de Richelieu, en face de ton magasin de vente de gramophones et de cinématographes. À moi, Warner. Eh ben, je les coulerai, ces nouveaux. Avant 2 mois, ils mettront les volets de bois.
Émile, je fais les comptes de la journée. Attends, nous avons dépassé... 450, 470, 490, 550... Nous avons dépassé 600 francs de recettes aujourd'hui, 3 mai 1897. Quelle foule, hein? Des forains.
Mais as-tu remarqué, Charles, qu'il n'y avait pas que des forains parmi les acheteurs?
Oui, il m'a semblé. Quelques élégants.
Les industriels, des rentiers. Il y a même un monsieur qui est venu avec un splendide attelage, son domestique et son cocher pour emporter un gramophone avec le plus grand des pavillons.
Oui, la modification que tu as apportée, oui. Remplacer les tuyaux acoustiques par un pavillon a eu pour conséquence de faire entendre la même chanson à tous les invités dans un salon. Tu as raison, un nouveau public est ainsi touché, après les professionnels, les amateurs. Tu as vu que la maison Werner en face n'avait pas enlevé ses volets ce matin?
Ils n'ont plus personne. Les clients regardent leur vitrine et traversent la rue de Richelieu pour venir chez nous. Pourquoi?
Je sais pas. En tout cas, j'irai le voir, ce Werner. Il me liquidera peut-être ses marchandises à bas prix.
Doucement, doucement. Tu sais que Jacques et Théophile ont retiré leurs 8000 francs de notre association.
Ils ont eu tort. Mais avec les rentrées journalières, notre trésorerie est à l'aise.
Si nos pauvres parents avaient vu cela. Dommage. Les parents devraient vivre toujours assez longtemps pour voir la réussite de leurs enfants.
Maman savait que nous réussirions. Toi, moi. La prédiction de la cartomancienne.
Tu y crois?
Dans une certaine mesure, oui. Mais je ne crois pas aux lignes de la main. Celle de la vie, surtout. Écoute, Émile. Tu seras seul à le savoir avec Marie. Je me suis livré à une expérience macabre.
Uh-huh.
Oui. Notre mère possédait le livre du chiromancien Edmond. Je l'avais gardé. Souvent, je le consultais. Je regardais les lignes de ma main en les comparant à celles des figures. J'y croyais d'autant plus qu'elles indiquaient pour moi une vie courte. Tu sais que je crache le sang. La tuberculose, peut-être.
Mais dis donc pas de bêtises. Et alors, ton histoire macabre?
Alors, l'autre soir, une cliente de Marie est morte des suites d'un accouchement. Une voisine, une nommée Joséphine, qui faisait la cocotte. Je me suis enfermé avec la morte pendant plus d'une heure. Et j'étudiais ses mains. Je comparais avec les dessins du livre. Prenais des mesures, même. Or, si je m'en rapportais aux indications contenues dans l'ouvrage, cette jeune personne, morte à 25 ans, aurait dû vivre jusqu'à 80 ans et avoir eu 4 ou 5 enfants. Or, l'enfant qui lui coûta la vie est le seul qu'elle eût jamais eu. Alors, j'ai brûlé le bouquin. D'ailleurs, par principe, c'était idiot. À quoi bon faire un effort si notre destinée est fixée dès notre naissance? Fini le libre arbitre. La vie est ce que chacun l'a fait. Et la fin même dépend souvent de la volonté des individus.
Alors tu vivras longtemps, vieux Charles. En attendant, allons boire un bock sur les boulevards. Tu as vu, demain, 4 mai 1897, on inaugure au 17 de la rue Jean Goujon le bazar de la charité.
Il y a un appareil de cinématographe installé. On va faire une projection. Mais je n'ai pas d'autres détails.
Certaines mauvaises langues disent bazar de la vanité au lieu de charité. Mais c'est le dépit, car tout le monde ne figure pas sur la liste des invités. C'est le tout Paris, le gratin. Tiens, j'ai apporté le Figaro. Son Altesse, la Duchesse de Lançon, la Duchesse de Vendôme, la Duchesse d'Uzès, la Duchesse d'Ouerrière de Saint-Didier. C'est le baron de Macao qui organise. Il a fait une reconstitution d'une vraie rue du Moyen-Âge avec boutiques à haut vent, la tour de Nesle, au pot d'étain, la truc qui file. Et donnera à toute cette haute société qui quête pour les pauvres deux films. Un train qui entre en gare et l'arroseur arrosé.
J'espère qu'on interdira de fumer.
Souhaitons que le baron de Mako n'oublie pas cette recommandation dans son discours d'inauguration.
Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier d'être venus si nombreux à la vente du bazar de la charité. Depuis sa fondation en 1895, tenue successivement rue du Faubourg Saint-Honoré, rue de la Boétie, chez la comtesse Branica, chez M. Henri C., il a rapporté à nos œuvres plus de 7 millions de francs. Mais cette année 1897, si j'en juge par l'affluence et la qualité de cette réunion, rendez-vous des élégances et de la haute société, verra, je ne doute pas, des recettes très supérieures aux précédentes. Avant de remercier les organisateurs qui nous ont apporté leur concours, je tiens à présenter mes respectueux hommages à Son Altesse Royale, Madame la Duchesse d'Alençon, qui a bien voulu honorer de sa présence cette réunion. Je remercie M. Michel Haine, qui a mis à notre disposition ces terrains de la rue Jean Goujon. M. Chaperon, décorateur de l'Opéra, qui a dressé la très artistique maquette de ce décor. Enfin, M. Sabatier, qui va nous présenter cette curieuse lanterne magique à vue animée, le cinématographe des Frères Lumière. Un train entre en gare et une bande du plus haut comique, l'arroseur arrosé. La salle de spectacle à l'extrémité de la rue du Moyen-Âge étant trop petite pour vous contenir tous, que 50 personnes entrent à chaque séance. Je vous demande un peu de patience. Cela vous permettra d'acheter beaucoup. Pour nos pauvres, je vous dis merci. Merci à tous.
Et l'arroseur.
Mesdames,
Messieurs, notre appareil vient d'avoir un petit accident. Excusez notre retard, mais je vous en prie, ne vous entassez pas devant la salle de projection. En attendant, achetez. Ou mieux encore, je vous conseille de vous rendre dans le petit terrain vague, au dehors. Mesdames, messieurs, je vous en prie, voyons un peu de patience.
Que se passe-t-il, Bellac? Le public proteste. Dépêchez-vous, il est 4h10. Je mets en route.
Bon, d'accord. Zut! Oh, la lampe de projection a épuisé sa ressource d'éther. Je vais la remplir. Non, on ne voit rien ici. Éclaire-moi, toi, au lieu de me regarder comme un idiot.
Vous êtes fou, Bellac.
Mon Dieu! Le feu! Attention! Le feu! Au feu! En flamme!
Madame la Duchesse, sauvez-vous, voyons!
Non, mademoiselle Dandelon, mes vendeuses d'abord, je partirai la dernière!
Mais le feu prend votre jupe, fuyez, je vous en prie!
L'incendie du bazar de la Charité. Le petit parisien à édition spéciale. L'incendie.
Donnez-moi le journal.
Demandez l'édition spéciale.
La duchesse d'Alençon morte. Que d'autre passe avant moi. Je partirai la dernière. Oh, quel camp la duchesse. Le duc, le comte, mademoiselle de... Des aristos, des bourgeois, je dis pas. Mais c'est malheureux tout de même des gens qui faisaient la charité. Tiens, 5 hommes seulement parmi les victimes, contre 115 femmes et enfants. Oh, c'est affreux, ça.
Oh, on dit qu'on a trouvé des cannes brisées,
ouais.
À pommeau d'argent, d'ivoire. Oh, c'est pas demain que j'irai voir le cinématographe Lumière et l'arroseur arrosé.
Ah oui, alors.
C'est épouvantable. Pour nous aussi, c'est une catastrophe.
Tu crois?
Tiens, un télégraphiste.
Et frère Pâté?
C'est un télégramme. Signé ici.
Merci. Tiens, de Milan. Annulons commande 10 appareils. Bande. Abandonnons art. Regret, Bolzano. Voyons le deuxième. Manchester. Suite incendie, bazar de la charité, renonçons à signer contrat. Wilson Gartner. Le troisième de Marseille. Considérons ordre, achat par lettre comme nul et non avenu. André Ray. Les autres sont semblables. Le dernier est de Berlin et il en arrivera d'autres, hélas.
Il ne nous reste plus qu'à abandonner notre fabrication d'appareils de cinématographe et à nous consacrer aux phonographes. Avec eux, aucun risque d'incendie.
Renoncer, jamais de la vie. Il faut chercher. Remplacer l'éther par un autre produit moins volatile. Une lampe électrique, peut-être. Oui, je sais, ce n'est pas assez puissant. Mais je trouverai, nous trouverons...
Quelle foi!
Mais oui, Émile, il faut croire à notre succès. Lutter, travailler des heures et des heures sur une question... C'est d'ailleurs ce que tu fais avec ton phonographe.
Des télégrammes, monsieur. Vous en recevez aujourd'hui?
Oui, beaucoup.
Oui, trop. Beaucoup trop. Vois-tu les télégrammes? On les envoie pour les mariages et les enterrements, les félicitations et les condoléances. Aujourd'hui, c'est pour nous jour de deuil.
Enfin, espérons. J'ai d'ailleurs remarqué que lorsqu'il arrive une catastrophe, le lendemain, un grand bonheur survient. Souvent inattendu.
Bonjour, monsieur Pâté.
Bonjour, monsieur Grévola. D'où venez-vous, tout de noir habillé, j'espère que...
Non, Dieu merci, je n'avais personne.
Ah.
Mais je reviens du service solennel. Notre-Dame était pleine à craquer. Le président Félix Faure était là. Notre jeune ministre, Louis Barthou, a prononcé un discours très émouvant.
Je le connais, c'est un de mes clients. Mais pourquoi souriez-vous, monsieur Grévola? Il n'y a vraiment pas de quoi.
Si, dans les drames, voyez-vous, il y a toujours une partie comique... Figurez-vous que Madame De avait dit à son mari « Je vais cet après-midi à la vente du bazar de la charité. » Et elle s'est rendue chez son amant. À 6h30, Madame De rentre chez elle, satisfaite, souriante. Monsieur De, qui connaît l'incendie du bazar, l'attend, la mort dans l'âme. Il se précipite. Alors, elle... Mon chéri, quel bel après-midi. Je quitte à l'instant son Altesse royale. Mais je ne viens pas ici pour vous raconter des potins. Non, voyons vos nouveautés.
Je faisais justement un essai. Les aiguilles s'usent vite, voyez-vous. Je tente de les remplacer par un saphir, mais le son est moins bon. J'améliorerai.
Votre frère n'est pas là ?
Non, il est à l'atelier de Vincennes.
J'aimerais visiter son atelier, oui, le voir.
Bah, rien de plus facile, surtout quand on possède un si bel attelage. Vincennes n'est pas si loin.
Puis-je y aller tout de suite ?
Mais oui, oui, je vais téléphoner à mon frère. Nous venons de faire installer le téléphone. Mm-hmm. Je lui annonce votre visite. Au revoir, monsieur Grivola.
Au revoir.
Bonjour, monsieur Grivola. Mon frère Émile vient de me téléphoner.
Bonjour, monsieur Pathé. Ah, toujours vos inventions.
Mais non, vous vous trompez. Je ne suis en aucune façon un inventeur. Je me contente d'améliorer ce que font les autres et de vendre les appareils. Mmh. Ainsi, tenez, regardez cet appareil.
C'est un châssis pour tirer les papiers photographiques. Vous l'avez acheté au bazar de l'hôtel de ville, à 1 franc. Et encore l'étiquette.
Oui, c'est exact. Maintenant, monsieur Grivola, regardez ce châssis construit par mon menuisier. 20 mètres de long, 5 glaces de 4 mètres achetées à mon vitrier.
Ah, oui.
L'ensemble, posé sur un tréteau, c'est le châssis du bazar de l'hôtel de ville multiplié par 5 ou 600.
Mmh.
Au-dessus, j'ai placé 250 lampes électriques pour remplacer la lumière naturelle. Je place d'abord ma bande négative, ma bande vierge, dans le noir naturellement.
Mmh.
Et j'allume la rampe dont j'ai réglé les lampes une à une selon l'intensité du négatif. Il ne me reste qu'à développer dans des cuves qui ont la même dimension de 20 mètres. Les bandes sont fixées au plafond pour sécher la nuit.
Mais c'est simple. Mais n'y aurait-il pas un moyen moins artisanal ?
J'ai essayé avec des perforations, mais... Ça ne marche pas. Les perforations sont arrachées. Mais, monsieur Grivola, pour un client, seriez-vous un inventeur ? Vous me semblez très intéressé.
Non, nullement. Un financier, tout simplement, monsieur Pathé. Depuis quelques mois, j'observe votre ascension, le développement de vos affaires. Ah, vos frères et vous pourriez faire mieux encore si vous disposiez de moyens plus puissants, de capitaux.
Et je n'en doute pas.
Vous êtes des artisans, soit dit sans vous froisser. Je vous apporte la possibilité de devenir des industriels, avec les capitaux que je mets à votre disposition. Réfléchissez à ma proposition, monsieur Pathé, et présentez-moi un projet d'accord. Oui, je sais que vous serez raisonnable. Allons, à bientôt, monsieur Pathé.
Émile, lis ce contrat que je vais soumettre à monsieur Grivola.
Constitution d'une société au capital de 2 666 600 francs, ayant son siège à Paris, 98 rue de Richelieu, ayant pour objet la fabrication et la vente de phonographes et cinématographes, plus les pellicules. Direction les frères Pathé, aux appointements annuels de 5 000 francs chacun et 5% sur les bénéfices nets. 100 000 francs d'actions d'apport leur seront attribués.
Mais c'est magnifique! Et tu crois que... Oh, monsieur Grivola signera, car il a confiance en nous. D'ailleurs, il est temps que nous disposions d'un peu plus de capitaux. Le public se lasse de voir à l'écran les incidents journaliers de la vie publique, l'arrivée d'un train en gare, d'un bateau au port, ou encore des enfants qui éventrent les dredons et en font voler les plumes.
Et la tarte à la crème écrasée sur les visages.
Un concurrent sérieux vient de se révéler. J'ai vu des films qui sont un vrai spectacle, avec des trucages que le cinématographe seul permet. C'est le directeur du théâtre Robert Houdin, nommé Méliès. Son voyage dans la Lune est remarquable. Cet homme est un artiste.
Il nous faut engager, nous aussi, un artiste. À défaut de M. Méliès lui-même, j'ai à te proposer M. Zeka.
Mm-hmm.
Ce Corse qui, en 8 jours, a fait sortir de terre et a décoré notre stand à l'Exposition Universelle. Il est musicien, enregistreur de cylindres phonographiques, vérificateur. L'homme a tout fait, hein. Je le regretterai. Il m'a dit avoir soumis un scénario.
Oui. Histoire d'un crime. Un garçon de banque se présente chez un débiteur pour encaisser une traite.
Mmh.
Celui-ci l'assassine. Jugement. Exécution capitale du coupable.
Pas gai ton histoire.
Le public aime les histoires de crime. Tu me le donnerais ton Zeka ? Il travaille avec toi depuis 1 an.
Oui.
Eh bien, il tournera les premiers films dignes de ce nom. Zeka sera le Sardou du cinéma.
Regardez, monsieur Grivela, l'appareil que je viens de mettre au point. Plus de rouleau. Je le remplace par un disque. Moins encombrant et l'enregistrement est plus long. Un saphir au lieu d'une aiguille qui s'usait trop vite.
Mais tu en vendras moins, animal.
Mais tu ne penses qu'à l'argent, toi.
Moi, l'argent, c'est bien ce qui te trompe, malgré les apparences. Il m'en faut, certes, ne serait-ce que pour notre standing, comme disent les Anglais. Mais de là à l'aimer pour lui-même, non. Mais dites-moi, mon cher administrateur, j'ai une innovation à vous proposer.
De quoi s'agit-il? Je vous écoute, mon cher directeur des cinématographes. Un nouvel appareil?
Non, pas du tout. Nous commençons à avoir du personnel à Vincennes. Depuis 2 ou 3 ans, certains ouvriers et ouvrières travaillent dans nos ateliers. Ils nous sont très dévoués.
Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Je vous propose de leur accorder 15 jours de congé par an. 15 jours payés, bien entendu. Nos bénéfices nous le permettent.
Ne craignez-vous pas que cela crée un précédent pour les autres industriels?
Oh, faisons selon notre conscience, monsieur Grivola.
Moi aussi, j'ai à vous demander quelque chose.
Et quoi donc, monsieur le directeur des phonographes?
Eh bien, en regardant plusieurs fois la fameuse sortie d'usine, j'ai constaté que les gens se bousculaient un peu.
Pour sortir, bien sûr.
Oui, certains se précipitent pour prendre leur tramway ou le train ou leur bicyclette. Mais ne pourrait-on accorder aux femmes enceintes l'autorisation de sortir 2 ou 3 minutes avant?
D'accord. Ah, on voit que votre femme attend un bébé.
On ne peut rien vous cacher.
Alors d'accord sur toute la ligne. Les congés et les femmes enceintes. Mais cela va être une révolution sociale. Monsieur Grivola, permettez-moi de vous laisser avec mon frère Émile. Je saute sur ma bicyclette. Hein? Au revoir.
Au revoir, monsieur Pâté.
Au revoir, Charles.
Mais que va-t-il faire? Depuis une semaine, on le voit à peine au magasin.
Mon frère, en ce moment, passe des heures et des heures à observer une machine perforeuse. C'est sa méthode de travail. Et la mienne. Fixer son attention sur un seul sujet à la fois. Ainsi, avec notre frère Théophile, il a amélioré et construit des appareils nouveaux.
Mais votre frère, j'ai remarqué, ne sait pas dessiner. Il est incapable de lire une épure. Comment fait-il?
Oui, mais il est obstiné, tenace. La nuit, dans le silence et l'obscurité, il pense, il réfléchit, il retourne le problème. Il voit des perforeuses, ses machines. Son acuité de vision se trouve décuplée. Alors il prend son carnet qu'il a toujours sur sa table de nuit et note ses observations. Quant à la mise au point, elle est faite, selon ses indications, par M. Quentin Souza, un de ses collaborateurs devenu son ami.
Oui, votre frère me dit toujours, je prends un collaborateur, j'en fais mon ami. Oh. Mais je ne fais jamais un collaborateur de mes amis.
Mais il a raison. Ainsi, en ce moment, avec Théophile, ils sont penchés sur les perforeuses. Demain, ce sera sur les bandes colorées au pochoir. Mon frère veut le cinématographe en couleur. Ça coûte cher, malheureusement, de colorier bande par bande. Ah, nous avons beaucoup de projets, monsieur Grivola, à vous exposer lors du prochain conseil d'administration.
Messieurs, la séance est ouverte. La parole est donnée à monsieur Charles Pâté, qui a une importante déclaration à vous faire.
Messieurs, vous nous avez toujours fait confiance à mon frère Émile et à moi-même, et nous vous en remercions. Depuis plusieurs années, les dividendes de notre société sont de 70 à 90% du capital. Et nos actionnaires sont très satisfaits. Nous avons fait en outre de substantielles réserves. Le moment est venu de les réemployer. Vous nous avez autorisé l'année dernière à acheter pour une somme minime l'usine de pellicule vierge Blair à Fauquier, en Angleterre, qui fonctionnait mal. Elle fabrique aujourd'hui 5 à 6 000 mètres de film par jour. Le 10e de nos besoins depuis que nous avons ouvert notre usine de tirage de Joinville-le-Pont. Le reste est acheté chez Kodak, à Rochester, et acheté cher, si j'en juge par notre prix de revient de Fauquier. Alors je vous propose de fabriquer nous-mêmes le film vierge, en France, à Vincennes, pour satisfaire tous nos besoins et pour en vendre dans toute l'Europe. J'ai fait établir les plans d'une importante usine que je vois s'ériger à Vincennes, au bout de la rue des Vignerons. Mais oui, monsieur, Vincennes sera le concurrent de Rochester, les frères Pâté de monsieur Eastman.
C'est de la folie.
Messieurs, Jusqu'à ce jour, nos folies se sont révélées raisonnables et bénéficiaires. Ainsi, mon idée de fonder une petite société pour louer des films aux exploitants, au lieu de les vendre, ce qui leur permettait de réaliser des bénéfices sur notre dos. J'ai rencontré alors parmi vous quelques oppositions. Regardez les résultats.
Au point de vue technique, êtes-vous capable de...
L'apprentissage de fautes créées nous a été utile. J'ai prévu une usine qui vous paraîtra immense et qui sera normale dans 60 ans. Voici les plans. À ce sujet, je dois rendre hommage à notre ingénieur, M. Marette, de l'École des Arts et Manufactures.
Et M. Eastman, que va-t-il dire? Que va-t-il faire?
Je ne vous cache pas que c'est le point noir de l'affaire. Mais je n'ai pas l'habitude de reculer devant un obstacle.
Quoique le cinématographe ne soit pas ma branche, je puis affirmer que mon frère pense à la construction de cette usine depuis des mois, des jours et des nuits. Je suis certain que...
Messieurs, à titre de président du conseil d'administration, je penche pour la construction de cette usine. Je mets aux voix le principe de construction d'une usine de pellicule vierge à Vincennes. Un, deux, trois... 5, 7. Le principe d'une construction d'usine à Vincennes est voté. Le prochain conseil d'administration examinera la question sous l'angle financier. Quant à M. Eastman, président-directeur de la société Kodak Rochester, eh bien, espérons qu'il ne nous déclarera pas la guerre.
Monsieur Pate, how do you do?
Monsieur Eastman?
I'd like to introduce Monsieur Sunthan et Monsieur Huntley Smith. Now, I wanted to tell you...
Je regrette, je ne sais pas l'anglais, Monsieur Eastman.
But when you're in England, at the Footscray factory, you...
Je vous écoute, je regrette.
Eh bien, parlons français, puisque vous ne savez pas l'américain. Je vous présente mes deux conseillers, Monsieur Sunthan et Monsieur Smith. Je vais droit à l'objectif. J'ai appris que vous alliez construire une usine de fabrication de films vierges Vincennes, vous ne la construirez pas?
Je la construirai.
Oh, vous voulez la guerre, hein? Attention, je suis le plus fort.
Oh, je ne crains rien ni personne.
Monsieur Pathé, vous avez tort de me résister. Vous êtes le pot de terre contre le pot de fer. Ça, c'est de votre La Fontaine. Mais à partir de demain... Vous ne recevrez aucune fourniture de films vierges. Et vous en avez besoin de beaucoup pour vos actualités. Oh, encore une de vos idées. Très bien, vos actualités. Mais alors vous ne pouvez plus fournir le marché.
J'ai tout prévu. Votre menace est fait le nécessaire.
Si vous acceptez de ne pas construire cette usine, je garantis à votre société pendant une période de 3 ans... La moyenne de bénéfices réalisés dans les deux exercices précédents, 1909 et 1910, pendant lesquels, et je le sais, vous avez distribué les dividendes de 70 à 90% à vos actionnaires. Je n'y mets qu'une condition, c'est que le prix de vente des films imprimés en Europe soit à l'avenir fixé d'accord avec moi.
C'est non, Monsieur Eastman. No!
That's the only word Mr. Pathé knows. But you are wrong, Mr. Pathé. You are wrong.
J'ai raison, Monsieur Eastman. J'ai raison. Et vous le savez bien.
Dommage, deux hommes comme nous, vous et moi, devraient s'entendre. Kodak Pathé, ce sera pour plus tard, monsieur. Au revoir.
Bye-bye, Mr. Eastman. God bless you. Émile.
Eh bien, Charles.
Il m'a menacé gentiment, Émile. La lutte sera dure. Mais je n'ai pas peur, je vaincrai.
Eastman a un monopole de fait, alors.
Alors, mes réserves épuisées, je raflerai, s'il le faut, tous les vieux films en Europe. Même usagés. Je les dépouillerai de leur gélatine, puis je les réémulsionnerai après les avoir repolis. J'ai déjà procédé à quelques essais. Pendant ce temps, l'usine se construira. Et toi, où en es-tu?
Les phonographes se vendent dans le monde entier. Nous avons peine à satisfaire à la demande. Tiens, j'ai reçu une invitation. Messieurs Pâté sont priés de se rendre à l'audition de télégraphie sans fil qui aura lieu à l'hôtel Continental sous la direction du capitaine Ferrier. Le capitaine Ferrier a mis au point les appareils de Branly et de Marconi.
Mesdames, messieurs, vous allez entendre la Marseillaise transmise de la tour Eiffel par sans fil.
Tu te rends compte, Émile? Oui. Tout de même.
Pourquoi pas? Appelle-toi ta caisse à savon, ton kinétoscope d'Edison. C'est évidemment un monument. Il faut 10 soldats du génie et un caporal, un capitaine sorti de l'X pour le faire fonctionner, mais je vais me procurer un de ces appareils dès que possible. Voir si on peut en réduire les dimensions.
Impossible d'isoler ces deux postes. Ils se chevauchent, s'interfèrent. Nos ingénieurs n'arrivent pas à...
Monsieur Louis Bartou.
Faites entrer.
Bien.
Bonjour, cher ami, comment allez-vous?
Bonjour, mon cher président.
Je vous en prie, pas de président ici. Ah, vous m'avez comblé avec vos perdreaux. Ils étaient d'une fraîcheur incomparable. Mais, qu'est-ce ceci?
Bon, usine de Chatou vient de fabriquer cet appareil de TSF. Écoutez. Mm-hmm.
Ah, cher ami, je n'ai jamais vu une telle merveille. C'est extraordinaire, splendide. Il a un avantage certain sur celui de vos concurrents.
Lequel?
Avec lui, on peut entendre Londres et Paris. Deux postes à la fois, c'est merveilleux.
Oh, toujours moqueur. Mais parlons d'autre chose. Les journaux m'ont appris votre séjour à Londres, votre réception à Downing Street.
Oui, oui, j'ai même dû... Enfin... Et vous, que faites-vous?
Tous les jours, l'usine de Chatou, du matin au soir. Ah, un projet tout de même. J'ai reçu un superbe album du Tsar de Russie en remerciement d'un phonographe que j'ai envoyé à Nicolas II avec un disque. D'un côté la Marseillaise et de l'autre le budget de Tsarakrani. Il m'invite même à me rendre à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Je n'ai guère le temps.
Je crains fort que vous ne puissiez vous rendre en Russie de sitôt.
Hein? Pourquoi donc? Vous craignez?
Oui, oui, la guerre. Heureusement, j'ai fait voter la loi de 3 ans l'année dernière. Guillaume II veut la guerre, son armée est prête. La nôtre, moins.
Ce serait épouvantable, ça. Une guerre aujourd'hui avec les moyens de destruction qu'on possède.
La parole est à notre administrateur, M. Charles Pâté.
Messieurs, vous avez bien voulu nous nommer, mon frère et moi, administrateurs de votre société, et nous vous en remercions. Nous sommes heureux de vous faire savoir qu'elle est en plein essor. Le bilan du dernier exercice fait ressortir que toutes les immobilisations de la société depuis sa fondation ont été amorties. L'usine de Vincennes, de pellicules vierges, fonctionnait à plein. Nous avions 1000 employés et ouvriers qui travaillaient de jour et de nuit, en 3 équipes de 8 heures chacune. Hélas, nous venons d'entrer en guerre. Beaucoup d'entre eux sont mobilisés. Nos stocks de nitrocellulose sont réquisitionnés. Nos bâtiments des usines servent de casernes. Notre atelier de la rue du Bois à Vincennes, où 500 ouvriers colorient au pochoir les films, notre usine de Joinville, de 1000 ouvriers, en compte 700 de mobilisés, vont être dans l'obligation de fermer. Il faut pourvoir aux besoins de 5 000 des nôtres, sans compter 1 500 personnes à l'étranger qui dépendent de nous. Il faut prendre sur nos réserves, franchir le cap, avoir confiance. Personnellement, je l'ai. Mon frère également. Je dois aussi vous faire part d'une mauvaise nouvelle. Comme vous le savez, en 1909, j'ai créé un pâté journal, non seulement en France, mais en Angleterre, en Russie, en Allemagne et aux États-Unis. Pâté News. Or, le Trust Edison refuse de répartir les recettes du consortium en y comprenant les bandes d'actualité. Et les rapports que je reçois de New York sont très pessimistes.
Mais alors, que proposez-vous ?
Me rendre aux États-Unis immédiatement, examiner de près la situation.
Mais ne croyez-vous pas que M. Hitzman est derrière ?
Peut-être, mais je verrai M. Hitzman. Cet homme m'a paru dur, comme doit être un homme d'affaires qui défend les intérêts de sa société. Mais il n'est certainement pas dépourvu de cœur. J'irai donc voir M. Hitzman.
Come on in. Oh, M. Pate, I'm glad to see you again in New York. Sure, I remember. Oh, but you don't speak English. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Enfin, pas trop mal. Cette guerre...
De quelle guerre s'agit-il? De la guerre entre la France et l'Allemagne ou la guerre entre Pate et Eastman? Moi et vous?
Des deux. La première gêne terriblement notre exploitation. Mobilisation, réquisition, mais ça, c'est notre business. Our job. Ici, nos affaires sont très touchées par le Trust Edison. Vous ne l'ignorez pas. Les journaux ont annoncé mon arrivée. Le New York Herald, notamment, a dit des choses fausses. La Fox aurait acheté nos studios. Ce serait la liquidation. Non, pas encore. J'avais besoin de $100,000. J'en ai trouvé 50, en engageant ma propre signature. Nous avons ici des studios, des usines, oui, des usines de fabrication de films vierges. Ça représente un film en plus de $50,000. D'autre part, je viens de signer avec le groupe Hertz un contrat important, une histoire en 15 épisodes, scénario très intéressant, à publier dans deux de ses grands magazines. Le film passera sur tous les écrans en même temps, aux États-Unis. Ici, ce sera Les Exploits d'Hélène. En France, Les Mystères de New York. Ce sera un très grand succès.
Mais que souhaitez-vous de moi et de Kodak Rochester?
Du crédit pour le film vierge, acheté par notre société américaine.
Monsieur Pate, je n'aime pas les discours, pas plus que vous. Mais je vous admire. Et j'aimerais que vous soyez mon ami, my friend, et un jour, mon associé. Alors, tout ce que vous voudrez. Vous m'avez dit un jour à Vincennes, non. Vous avez vaincu. Alors aujourd'hui, je vous dis, oui, yes, pour que nous soyons vainqueurs ensemble.
Oh, comme vous avez fait des progrès en français, depuis Vincennes.
Au revoir, Monsieur Pate. À notre prochaine rencontre, nous nous associerons quand la guerre sera finie. Et elle sera bientôt finie, grâce à nous.
Ferme la fenêtre, Marie.
Un jour pareil, jouer aux cartes avec ton frère.
La joie est dans mon cœur, silencieuse. Je ne mérite pas de participer à la fête. J'ai vécu, bien vécu, pendant que...
Tu as fait vivre leur famille, tu as travaillé.
Laisse-moi jouer aux cartes avec Émile, veux-tu? Je mets un carreau.
Sans atout. As, roi. As, roi, j'ai gagné.
La revanche ?
Non, non, j'ai quelque chose d'important à te dire. Voilà, j'ai une offre d'un groupe puissant de Lyonnais pour racheter la branche phonographe. Il m'offre d'être président de la nouvelle société. Lee.
Ah, mais c'est intéressant, ça. Très intéressant. Même nous aurons deux sociétés. D'un côté, Pâté Cinéma. De l'autre, la société des machines parlantes Pâté Frères. Ainsi, nous pourrions donner plus d'extension à notre affaire. Moi, de mon côté, j'ai l'intention de proposer à mon conseil d'administration une association avec M. Hitzman pour l'usine de pellicules vierges à Vincennes, 100 ans. Ce Georges Hitzman s'est montré très fair-play à New York avec moi. Et grâce à lui, j'ai relevé nos affaires en Amérique. Il nous ferait participer à 49% des actions. Pendant 99 ans, nous bénéficierions d'un tarif préférentiel pour tous nos besoins en film. Le prix de revient sans amortissement, nos bénéfices précédents garantis. Cette cession rapporterait à nos actionnaires dans les 200 millions de francs.
Il faut accepter.
Ah oui.
Comme nous sommes loin du gramophone sous le parapluie de Vincennes, tu te souviens?
Je ne l'oublierai jamais. Jamais, jusqu'à mon dernier souffle. Tu sais que je suis fatigué.
Mais oui.
Toi, tu es solide comme un roc.
Oh.
Mais moi, je tousse, j'ai souvent de la fièvre. Je l'oublie dans mon travail. Et puis, tu sais, on travaille aux États-Unis au film parlant.
Mmh.
Ils ont de très gros capitaux. La possibilité d'amortir sur des milliers de salles. Oui, oh, je sais. C'est pas pour demain. Mais le temps passe si vite quand on est vieux. Mon temps à moi est fini. À d'autres, le flambeau. À d'autres, notre coq. Je suis fatigué. 60 ans. Je me sens très usé.
Allons donc, je disais hier à Bartou que tu nous enterrerais tous.
Oh, j'ai mal. Je te demande pardon. Se plaindre ne sert à rien. Alors ouvre la fenêtre, Marie. Nous avons fini de parler de choses sérieuses. Quel spectacle! Les Champs-Élysées le jour de la victoire, c'est merveilleux. J'aurais vu ça avant de mourir.
Mais Charles, tu en verras bien d'autres.
Oui, tu as raison. Ainsi, je me suis lancé dans une nouvelle affaire. Le cinéma pour tous, le cinéma chez soi. Le pâté baby, puis le cinéma pour les campagnes, le pâté rural.
Ah, j'aime te voir comme ça, comme d'habitude. Lutteur, accrocheur, ne désespérons jamais. Je t'emmène dîner chez la rue. J'y ai donné rendez-vous à Laurentine. Mon fils aîné, Jacques, sera des nôtres. Et nous fêterons notre rosette de la Légion d'honneur, puisque nous devons l'avoir tous les deux.
La carte mangienne avait dit à maman, sur vos quatre fils, il s'en trouvera un qui réalisera une telle invention que votre nom sera connu du monde entier. Il sera décoré de la Légion d'honneur.
Eh bien, comme en toute chose, elle a eu en partie raison, la carte mancienne. Nous avons été tous deux, toi surtout, Charles.
Oh, pas des inventeurs. Ce sont les frères Lumière qui ont été les inventeurs. Pas nous. Mais nous avons amélioré, créé, fait vivre pas mal de monde, des gens de la famille. Notre nom est connu du monde entier. Pâté et son emblème, le coq.
La carte ancienne s'est trompée sur la durée de ta vie. Tu mourras centenaire, Charles.
Quel jour sommes-nous aujourd'hui?
Le 23 décembre 1957, Charles. Comment te sens-tu?
Pas trop mal. Vois-tu, je devais mourir le premier. Jacques est mort, Théophile est mort. Émile aussi, en 1937. Beaucoup, beaucoup. Et moi, je reste. Dis-moi.
Quoi?
Si je meurs demain, n'avertis personne. Ni mes enfants, ni mes neveux et nièces. Il faut qu'ils passent une bonne fête de Noël. Allez, jouons. Donne-moi une cigarette.
Mais tu as joué depuis ce matin 5 heures. Il est 2 heures de l'après-midi. Sortons. La voiture nous attend. Regarde comme le soleil brille sur Monaco.
Non, jouons. Dis-moi, la carte ancienne avait dit que je mourrais jeune. Et j'ai combien?
Dans 5 ans, tu seras centenaire, Charles.
Ah, tiens, je donne. Sans atout. 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 J'ai gagné.
La radiodiffusion télévision française vous a permis d'écouter aujourd'hui l'histoire de Pâté Frères, évoquée par Léonce Payard, avec le concours de Aimé Clarion, sociétaire de la Comédie française, dans le rôle de Charles Pâté, Lucien Natt, Émile Pâté, Bernard Lajarige, Théophile Pâté, Jacques Galland, Jacques Pâté, avec Raymond Marie Pâté et Jeanne Marquen, Madame Pâté, mère. Ont participé également à cette émission Gaby Basset, Simone France et Luce Fabiole, Marcel Lupovici, Fred Fischer, Daniel Mandaille, Robert Maxime Aubry, Roland Chalos, Michel Salina, Bill Kern, Hubert Bution, Pierre Hamel, Philippe Moreau, Marcel Millet, Paul Antéric, Henri Janik, André Polak et Robert Arnoux dans le rôle de Grivola. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Delanduc. Collaboration technique, Charles Marié et Christian Baudelot. Réalisation, Roger Goupilière. C'était une soirée de Paris.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 juin 1958. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.